Pour commencer cette chronique, je souhaiterais faire appel, me référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Un texte auquel la Constitution de la Ve République a rappelé son attachement en 1958, un texte qui reste depuis plus de deux siècles une référence en matière de loi de droit. Vous avez sans nul doute déjà entendu au moins le début de l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais cette Déclaration universelle des droits de l'homme comporte d'autres articles, dont l'article 13, dont il est souvent question dans la presse, dans les médias, dans la bouche des hommes et des femmes politiques, même si la référence n'est pas explicite. Un article qui énonce pourtant un principe à la base de notre modèle républicain. Je vous le lis dans son intégralité. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Il est question de l'impôt dans cet article, même si le terme n'est pas utilisé. Chacun doit contribuer aux dépenses de l'administration, participer aux dépenses communes de l'ensemble de la société en fonction de ses facultés, c'est-à-dire de ses possibilités financières. Une phrase qui décline donc un principe fort de fraternité, payé pour une cause commune, et un principe d'équité, car cela doit se faire en fonction de ses moyens. Un principe qui définit finalement des intérêts communs. Mais le terme de contribution n'est plus utilisé, et ce depuis longtemps. Et le changement de vocabulaire n'est pas dénué de sens politique. Ainsi, alors que le citoyen a été invité en 1789 à contribuer, à participer lui-même à l'entretien de services communs, le terme d'impôt laisse sous-entendre que reposerait sur lui une contrainte qui s'impose, une contrainte appelée même une charge. Si pèsent sur nous des impôts, des charges, et non pas des contributions, cela veut dire que cela s'impose à nous alors que nous n'avons rien demandé, voire rien souhaité, qu'il serait donc légitime d'essayer de s'en débarrasser, ou du moins d'en payer le moins possible, afin de ne plus être volé, spolié, par une administration qui n'aurait pour raison d'être que nous voler notre argent, sous-entendu durement gagné. Et pourtant, tous les jours, notre vie quotidienne est régie par l'existence de cette contribution à la vie commune. La route sur laquelle vous circulez, l'instituteur-trice qui accueille votre enfant, les locaux où il reste toute la journée, le sport que vous pratiquez peut-être sur un terrain ou un gymnase chauffé, nettoyé, l'infirmière qui vous soigne aux urgences. Ce quotidien n'existe que par l'argent que les individus versent au titre de l'impôt sur le revenu, de la TVA sur la consommation, sur les cotisations prélevées sur les salaires ou encore l'impôt sur les sociétés. Des rentrées d'argent sans lesquelles il n'y aurait pas de service public. Bien entendu, l'article 13 de 1789 édicte un principe et la politique fiscale ne cesse d'évoluer. L'impôt sur le revenu n'a été instauré en France qu'en 1916. Un impôt qui n'assure que 20% des recettes de l'État, soit moins que la TVA, alors que c'est l'impôt le plus juste en raison de sa progressivité. Et depuis la fin des années 1970, les libéraux, que ce soit en France ou partout dans le monde, ne cessent de vouloir tourner le dos à cette déclaration de 1789. Ils sont parvenus peu à peu à vendre l'idée selon laquelle les administrations, l'État, étaient un problème. Qu'il devenait injuste de payer des impôts pour le faire fonctionner. Et peu à peu, cette petite musique s'est diffusée. Elle a été vendue comme une mesure de justice fiscale, alors que ces baisses des impôts, quand elles ont lieu, ont pour conséquence la détérioration des services publics à l'école ou à l'hôpital. Or, si celui ou celle qui gagne le SMIC parvient même avec difficulté à s'en sortir, c'est qu'il ne paye pas l'instituteur, qu'il ne paye pas l'infirmière aux urgences, qu'il bénéficie finalement de services publics qui lui assurent un complément de revenus. Or, si les services publics se dégradent, sont moins présents sur le territoire, alors c'est le SMICard qui s'appauvrit. Les services publics sont le patrimoine de ceux et celles qui n'en ont pas. Si la fin des années 70 a été le début de la remise en question du montant des impôts, des contributions des uns et des autres, depuis quelques années, c'est le principe même des impôts qui est remis en cause, et ce par les plus riches. Par les possédants milliardaires, qu'ils s'appellent Musk ou Arnaud, qui ne souhaitent pas contribuer à un quelconque effort commun, qui, loin de toute solidarité, fraternité via l'impôt, prônent plutôt le chacun pour soi, la loi du plus fort étant leur seule règle. Justifiant pour Musk l'utilisation de jets en moyenne une fois par jour ou l'envoi de fusées, tout cela sans aucune considération écologique pour la planète. Alors, juste un conseil si vous le permettez. Méfiez-vous de ceux et celles qui parlent de baisse des impôts, et ceux encore plus s'ils utilisent le terme de charge. Bien souvent, ce qui est défendu, c'est un monde du chacun pour soi, au profit au bout du compte des plus riches. Et derrière ces discours se cache une nouvelle espèce politique. Une espèce qui ne cesse de se multiplier dans tous les pays du monde. Une espèce bien dangereuse auquel je consacrerai ma prochaine chronique. La prochaine fois, je vous parlerai des libertariens.